Le message que je vous présente aujourd'hui, je le tire d'un message superbe qui a été présenté il y a peu de temps par M. Rod McNair au quartier général à Charlotte. C'est un message qui est important parce qu'il peut nous aider à comprendre de quelle façon on peut utiliser les habitudes dans la voie chrétienne pour vraiment être capable de changer, mais de comprendre le mécanisme en question. Alors, c'est une traduction de ce message-là que je vous présente, mais je vous la présente dans mes mots avec certaines adaptations pour préciser le message. Le titre du sermon, le pouvoir des habitudes. Pensez à vos routines quotidiennes. Vous avez tous des routines quotidiennes comme moi. Ce qu'on fait là, chaque jour, matin, midi et soir. Même trajet pour aller à l'école, pour aller au travail, même linge à laver, même vaisselle à laver, à serrer de nouveau. On a toutes sortes de routines, parfois qui peuvent devenir monotones. Nous semblons parfois comme tourner en rond dans une boucle sans fin. Alors, dans le message aujourd'hui, nous allons penser à nos routines, mais un peu différemment. En les regardant sous un angle autre, nous pouvons y voir quelque chose de spécial. Même nos routines qui nous semblent monotones. J'aimerais donc aujourd'hui examiner en quoi les routines de notre vie peuvent être une bénédiction. Et vous allez voir à mesure qu'on va avancer que c'est vraiment le cas. Qu'il existe même une force utile ou un pouvoir utile à nos routines ou à nos habitudes. Qu'il existe même donc cette force-là qu'on peut utiliser pour aller plus loin en tant que chrétien. Ce que nous vivons jour après jour, il ne faut pas oublier une chose. Ce que nous vivons jour après jour, c'est un laboratoire que Dieu utilise pour nous préparer à l'éternité et nous préparer à nos responsabilités dans le monde qui vient. Dans le fond, c'est l'arène dans laquelle il nous juge, nous surveille, nous guide. Bien sûr, c'est parfois excitant puis encourageant de faire des pauses, de modifier la routine, d'aller ailleurs, de prendre une vacance ou de changer un petit peu d'activité. Ça fait du bien. Mais on revient toujours à nos habitudes. Ça, c'est la vie normale. Mais en réalité, nos habitudes quotidiennes nous apportent aussi un certain niveau de paix et de sécurité. Ça, vous le réalisez. On réalise cela lorsque nous allons quelque part en voyage, par exemple, ou en vacances. C'est encourageant, c'est intéressant. Mais c'est intéressant de revenir à la maison aussi, puis de retrouver la nourriture habituelle, les gens autour, les mêmes activités, notre lit, tout simplement. Donc ça, c'est nos petites habitudes. Alors, on revient, on est content, c'est confortable, on se sent bien. Parfois, notre routine normale est perturbée, bien sûr, par des événements inattendus. Maladie, décès de quelqu'un, perte d'un emploi, perte de certains avantages, surprise qu'on aime moins. Et après ça, c'est un soulagement, quand ça rentre dans l'ordre, puis qu'on retrouve notre routine habituelle. En réalité, la routine apporte un sentiment d'enracinement dans nos vies. Et on peut le voir chez les petits-enfants. Écoutez, ce concept-là de routine apporte une sécurité puis une stabilité dans la famille puis dans la maison quand les petits-enfants ont une routine et on leur donne. Je sais, on a fait ça avec les nôtres et ça va beaucoup mieux dans ce temps-là. Les parents le savent. Lorsqu'un enfant n'a pas l'habitude, par exemple, de se coucher à la même heure, ben ça va pas bien. C'est sûr que les enfants ne sont jamais intéressés par aller se coucher. Mais lorsqu'il y a une heure de fixer et qu'ils doivent s'y conformer, ils sont en sécurité. C'est comme des balises de sécurité. C'est sécurisant pour l'enfant. Les habitudes normales et prévisibles apportent la paix et la stabilité. À la maison, dans ce cas-là, mais dans nos vies, lorsqu'on a des routines qu'on peut contrôler, comme on verra. Alors, on va explorer ça un peu aujourd'hui. Dieu a mis un certain pouvoir dans ses habitudes et dans ses routines. Il a créé le monde ainsi. Et il nous a créés ainsi également. Quelles sont vos habitudes à vous? Les choses que vous faites peut-être sans trop y penser. Vous en avez toute une série. Comme par exemple, vous rendre au travail en voiture, si c'est votre cas. Pensez à tout ce que ça implique d'aller au travail. Il y a plusieurs actions qui sont impliquées. Se préparer, trouver les clés, s'assurer d'avoir son permis de conduire, d'avoir son manteau, le matériel pour le travail ou pour les études, prendre le volant, reculer, surveiller autour, et ensuite, faire le chemin pour se rendre. Et ça, on fait ça des centaines, des milliers de fois, une fois après l'autre. Avez-vous remarqué que quand ça devient une routine, on n'y pense presque plus même. On fait le trajet sans trop y penser. C'est ça une routine. Et vous allez voir qu'il y a moyen de comprendre le phénomène puis de s'en servir. Vous pouvez monter dans la voiture, vous retrouver au travail en réalisant que vous ne vous rappelez peut-être même pas tout ce que vous avez vécu en vous en allant. Vous pensiez à autre chose. Vous étiez, pour ainsi dire, sur le pilote automatique au point de vue du cerveau, au point de vue de la pensée. Pas parce que vous n'étiez pas concentré sur la conduite, vous avez réussi à vous rendre comme il faut, mais c'est devenu tellement routinier que vous n'y pensez pas tellement. Et ça, c'est une caractéristique remarquable que Dieu a mis dans le cerveau humain. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre aujourd'hui. Les routines et les habitudes augmentent l'efficacité de ce que nous faisons. Vous allez comprendre pourquoi. Pensez à la façon, par exemple, dont vous vous brossez les dents chaque matin. Imaginez, là, vous prenez votre brosse à dents toujours de la même main, vous mettez à peu près toujours la même quantité de pâte à dents, vous la mettez dans le même sens, vous commencez toujours sur le même côté de la bouche, et vous procédez toujours de la même façon. Regardez-vous faire, c'est exactement ça que vous faites, toujours pareil, la même chose. Mais pendant que vous brossez vos dents, vous ne pensez pas nécessairement à tous les gestes que vous faites. C'est ça que je vais essayer de vous amener à réaliser. Vous l'avez probablement fait de la même façon durant des années. Le cerveau a un moyen remarquable d'accroître son efficacité grâce, justement, aux routines. Et vous allez voir comment ça nous sert chrétiennement aussi. Dieu a créé nos cerveaux pour qu'ils se développent sur des habitudes et avec des habitudes. En fait, notre cerveau automatiquement recherche constamment des routines dans nos activités quotidiennes. Pourquoi? Pour nous sauver de l'énergie. Vous allez voir pourquoi. Pour nous sauver d'énergie. Parce que les habitudes rendent le cerveau plus efficace, économisent l'énergie qui peut alors être utilisée ailleurs. Ça peut être pour le bien, ça peut être pour le mal aussi, dans les deux sens. Tout dépend de la façon dont nous exploitons ce pouvoir. Parlons donc de la manière de tirer parti de ce fameux pouvoir des habitudes dont je vous parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe exactement dans notre cerveau lorsque nous répétons une habitude et lorsque nous suivons une routine? C'est ce qu'on va voir. Il y a un livre fascinant qui a été publié à ce sujet-là, qui a été écrit par M. Charles Duhigg, D-U-H-I-G-G. Et le titre du livre, c'est ceci, « Le pouvoir des habitudes ». Deux points, et le restant de la phrase m'intéresse particulièrement. « Le pouvoir des habitudes », deux points, « Changer un rien pour tout changer ». Changer un rien pour tout changer. L'auteur raconte l'histoire d'un certain chercheur de l'Institut de technologie du Massachusetts, c'est un groupe de chercheurs en fait, qui effectuait des recherches dans les années 90 sur les habitudes. Ils utilisaient des rats dans leur laboratoire, des rats avec des labyrinthes, vous savez, ces fameux tests. Ils ont remarqué qu'il y avait des ganglions à la base du cerveau qui ont une fonction très précise. Ces ganglions-là, on les appelle les noyaux gris centraux. Si vous voulez faire des recherches, vous pourrez aller sur Internet. Ce sont ce qu'on appelle les noyaux gris centraux. Alors, ils ont fait des expériences avec ça. Et ça va nous apprendre des choses intéressantes. Ils ont pris des rats, ils ont implanté des électrodes à ces noyaux gris centraux. Ça, c'est un organe de la taille d'une toute petite balle vers le centre du crâne, là où le cerveau rencontre la colonne vertébrale. Ils les ont mis dans des labyrinthes où il y a plusieurs chemins pour arriver à un résultat. Avec un morceau de chocolat à l'autre bout. Certains d'entre nous seraient vraiment intéressés par le test. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit dans ce livre-là, à la page 14, « Le pouvoir des habitudes ». Le labyrinthe était structuré de manière à ce que chaque rat soit positionné derrière une cloison qui ouvrait lorsqu'un clic fort retentissait. Initialement, lorsque le rat entendait le déclic et voyait la cloison disparaître, il se promenait généralement dans l'allée centrale, reniflant dans les coins et grattant les murs. Il semblait sentir le chocolat, mais ne savait pas comment le trouver. Lorsqu'il atteignait le bout d'un des tunnels, il se détournait souvent à gauche du chocolat pour s'en éloigner, puis il se dirigeait vers la droite, s'arrêtant parfois sans raison apparente. Finalement, la plupart des animaux découvraient la récompense. Mais au point de départ, il n'y avait pas de tendance discernable pour réussir. Okay? Alors, il y avait essai et erreur pendant un certain nombre de fois. Comme on pouvait s'y attendre, après quelques répétitions, c'est devenu plus facile et plus rapide d'arriver à la récompense à l'autre bout, d'arriver au chocolat. Au bout d'un moment, au clic de la porte qui s'ouvrait, le rat descendait le long du chemin et allait directement là où il fallait pour atteindre le chocolat. Il avait finalement appris. Mais il y a beaucoup plus que ça, là. Ça, c'est juste le départ de l'expérience. On va aller plus loin. Ce qui se passe dans le noyau gris central ou dans les noyaux gris centraux, ça, c'est quelque chose de fascinant. Les chercheurs ont constaté que la première fois où le rat traversait le labyrinthe, il y avait beaucoup, beaucoup d'activités dans le cortex cérébral. Ils pouvaient mesurer ça. Ça, c'est la partie pensante du cerveau. Mais plus le rat répétait les mêmes actions, moins il y avait d'activité au cerveau. Voyez-vous, ça, c'était spécial comme réaction. Sauf dans ce minuscule organe, les noyaux gris centraux. Eux autres continuaient d'être très actifs. Mais la partie centrale du cerveau, qui fait penser, était moins active après un certain temps. Le cortex cérébral se calmait, mais l'activité, c'est-à-dire à mesure que le rat répétait l'opération de suivre la route et d'arriver au bon résultat, le cortex cérébral se calmait, mais l'activité dans les noyaux gris centraux devenait très élevée. C'était comme si la partie pensante du cerveau avait transféré son travail sur les noyaux gris centraux. L'habitude était à ce moment-là enregistrée, elle était préservée, répétée, sans que le reste du cerveau ait à travailler. Voyez-vous? Ça, c'est fascinant de comprendre ces choses-là. Dieu a fait des choses de façon extraordinaire. L'évolution n'est pas vraie, hein? Parce que comment ça aurait pu arriver à une chose aussi complexe se développer dans des domaines aussi précis? En effet, une fois que le cerveau a trouvé une routine, on parle d'habitude, il peut transférer le travail à ce tout petit organe, libérant la partie pensante du cerveau qui peut alors se concentrer sur autre chose. C'est une découverte remarquable et un aperçu fascinant de la merveilleuse structure du cerveau. Dieu, qui est si grand, a créé nos esprits pour travailler de la manière la plus efficace, en économisant l'énergie et en pouvant donner l'accent à ce qui doit avoir de l'importance encore plus. Pensons par exemple aux expériences qu'on a vécues tous, ou la plupart d'entre nous, pour apprendre à conduire un véhicule automobile. Les premières fois qu'on a embarqué derrière un volant pour conduire, les mains tremblent, le cœur battant, inquiet, parfois des sueurs, tous les stimuli qu'il y avait autour nous dérangeaient, nous accaparaient, centraient complètement notre attention et toutes nos capacités, pour ainsi dire, sur le fait de conduire ce fameux véhicule. On a aussi donné des sueurs froides, bien sûr, à nos parents. Mais avec le temps, quand vous avez fait ça, vous avez appris, vous avez gagné de l'expérience, et c'est devenu comme plus routinier, de sorte que plus ça a été, c'est devenu tellement routinier que vous pouvez maintenant aller au magasin ou aller au travail, comme j'ai dit tantôt, sans avoir à y penser à chaque instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les premières fois, votre cortex cérébral était en suractivité, était super stimulé, comme la première fois que vous avez pris un volant. Votre cortex cérébral était en complète activité, surstimulé. Mais après quelques fois, il a commencé à faire quoi? À transférer ce travail-là aux noyaux gris centraux de votre cerveau. Ça, c'est le phénomène qui se passe. Vous vous êtes senti de plus en plus à l'aise, de sorte que c'est devenu une routine, une habitude de conduire. Même chose, par exemple, pour la première journée d'un emploi nouveau, ou la première journée d'études nouvelles, ou d'un autre degré d'études. Tout est nouveau, tout est à apprendre. Le vocabulaire, l'approche, les travaux à faire, c'est comme conduire au début, là. Ça nous dépasse, et parfois ça a tendance à nous décourager, mais il ne faut pas nous décourager. C'est justement, il faut tenir pour installer de nouvelles façons de procéder et que ça devienne plus naturel. Tous les nouveaux termes à apprendre, les nouvelles procédures à suivre. Mais quelques semaines plus tard, voilà que la routine apparaît avec un grand soulagement. Comme je vous dis, c'est l'importance de persévérer lorsqu'on a besoin de changer quelque chose ou de s'adapter à quelque chose de nouveau, comme un nouveau travail, un nouvel endroit pour vivre, comme de nouvelles études. Maintenant, je vais plus loin. Qu'est-ce que ça a à voir avec nos vies spirituelles? Allez dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Et vous allez voir que ça a tout à voir avec notre vie spirituelle. Tout comme nous avons des habitudes dans notre vie physique quotidienne, nous avons la même chose dans notre vie spirituelle. Des façons de faire les choses ou des scénarios que nous devons développer et répéter encore et encore. Et c'est la façon d'apprendre. En arriver à le faire sans avoir à y penser beaucoup. Quand nous regardons les serviteurs de Dieu à travers l'histoire, on se rend compte qu'ils ont répété certaines actions fois après fois, de telle sorte que c'est devenu une partie intégrante de leur vie. Ça devenait une seconde nature, si vous voulez, parce qu'ils l'ont fait tellement de fois. C'est ça. Et quand Dieu nous appelle, on commence à faire des choses différentes pour la première fois. Mais plus on le fait, plus ça devient une seconde nature et plus ça devient facile. Daniel 6, verset 10. « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, parce que le dictateur avait dit que quiconque adorerait un autre Dieu que lui-même, que sa statue, serait mis à mort. » C'est ça le contexte. Alors, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et trois fois le jour, il se mettait à genoux. C'est contraire au règlement que le roi avait passé. Il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. La routine était là. Elle était déjà établie. Daniel avait un mode de vie intégré, une routine depuis longtemps. C'était quelque chose qu'il avait fait quand il était jeune, jour après jour, et c'était devenu une habitude profondément enracinée. À vrai dire, le fait d'être une habitude si profondément enracinée a certainement aidé dans ces moments extrêmement difficiles. Ça a fait toute la différence. Et pour nous aussi, c'est pour ça qu'on est à une époque où il nous faut acquérir les habitudes que Dieu nous montre pour que ça devienne une seconde nature, pour qu'on soit capable de passer à travers les événements qui s'en viennent. Bien sûr, Daniel devait encore chaque fois faire un choix. Il aurait pu ne pas aller adorer Dieu pour penser se sauver la vie. Mais il y a des choix à faire, et quels que soient les choix, la difficulté des choix, on doit faire les bons choix, et Dieu nous bénit en conséquence. Mais ce n'était pas comme si c'était la première fois qu'il y avait une épreuve, Daniel. C'est qu'il a prié Dieu jour après jour, toute sa vie, jusqu'à ce moment-là. C'était juste une journée de plus, où il y avait bien sûr une épreuve plus grande. Mais comme il était entraîné à se tourner tout de suite vers Dieu, c'est ce qu'il a fait immédiatement. C'est la voie du Seigneur, la voie à suivre, le chemin. Et je vais en parler de la voie plus précisément tantôt. Comme on voit dans Actes 18, verset 25, pas besoin de vous y reporter. Allez à 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, on va lire le verset 31. Paul encourage les membres de l'Église à imiter ses routines à lui. Il dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Soyez mes imitateurs, voyez-vous, comme je le suis moi-même du Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » Il donne le chemin à suivre, dans le fond. On est appelé à être des imitateurs de Dieu, du Christ et de ses serviteurs, comme de Christ. La culture dans laquelle on vit, notre monde actuel, récompense les rebelles qui marchent à leur rythme. Ils répètent, eux, des routines immorales. Et plus les gens répètent des routines immorales, plus ils sont habitués et plus ils aiment ces routines-là. On vient à aimer les routines qu'on fait. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de changer. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons le faire. Nous sommes, vous savez, nous sommes appelés à être comme les autres serviteurs de Dieu dans l'histoire. Nous ne sommes pas appelés à être différents, c'est-à-dire à être originaux. On n'a pas à bâtir un autre chemin. Dieu nous a montré la voie à suivre. Bien sûr, on a tous notre propre personnalité et Dieu aime ça. Mais en ce qui concerne le caractère, en ce qui concerne le mode de vie, nous sommes conçus, selon le plan de Dieu, pour suivre une voie, un modèle fixé par Dieu, par le Christ, par les prophètes, par les apôtres, par nos dirigeants qui suivent cette même voie-là, afin que nous puissions un jour la transmettre aux êtres humains dans le monde de demain, après que le Christ sera revenu. Il y a une prophétie intéressante qu'on cite à la fête des tabernacles régulièrement. Allez dans Ésaïe chapitre 2, on va lire le verset 1 et 2. Ça parle justement des habitudes que les gens vont développer dans le monde à venir avec les enseignements que nous allons leur donner. Ésaïe 2, verset 1 et 2. « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, son gouvernement, sera fondée sur le sommet des montagnes, sur le gouvernement universel, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, les plus petits niveaux de gouvernement, et que toutes les nations y afflueront. À ce moment-là, nous allons enseigner la voie de Dieu. Il y aura une norme, une moralité qui va s'étendre sur toute la face de la terre. » Et regardez au verset 3. « Des peuples, à ce moment-là, s'y rendront en foule à Jérusalem et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Pourquoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Ici, j'arrête sur le mot « sentier » que je vais vous expliquer. Les gens vont demander d'apprendre les voies de Dieu et d'être capable de marcher dans la voie de Dieu dans ses sentiers. Le mot hébreu pour « sentier », c'est « O-R-A-C-H »,« orak ». Ça, c'est le mot hébreu. Et quand on regarde dans la concordance de Strong, ça donne la définition suivante, « une route très fréquentée ». Comme par exemple, une route qui est toujours la même et qui est empruntée par des caravanes. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'il y a un tracé qui se fait dans le sol. Ça creuse. Je me rappelle, sur la ferme, les vaches suivaient toujours le même trajet pour revenir à l'étable ou repartir. De sorte qu'il y avait une section qui était creusée. On pouvait voir où ils passaient exactement. Le sentier était utilisé régulièrement, de sorte que le sentier était multiplié par le nombre de personnes qui venaient. Il y avait une voie, pour ainsi dire. Alors, les voies que nous allons enseigner ne seront pas des voies neuves. Ça va être la voie de Dieu. C'est intéressant. Les modèles que nous suivons, les fidèles serviteurs de Dieu, en ont fait leur mode de vie, leurs habitudes. Et ils n'ont pas marché dans ce sentier-là une seule fois. Ils ont répété l'opération, comme Daniel qui priait chaque jour. Voyez-vous, vous ne respectez pas le sabbat une seule fois, et après, oups, vous êtes dans le royaume. Vous ne vous repentez pas une seule fois, et après ça, vous êtes dans le royaume. C'est fait. Non. Il y a tout un processus qui doit s'enclencher puis se continuer. Vous ne venez pas à bout de vaincre votre orgueil, ni moi non plus, d'un seul coup. C'est un travail de longue haleine. Vous n'allez pas vers votre frère qui vous a offensé une seule fois. Si vous offensez plus qu'une fois, vous allez vers lui plus qu'une fois. Vous ne vous contentez pas de chercher Dieu de tout votre cœur une seule journée, puis après c'est terminé. Non, c'est le modèle de toute une vie. Nous faisons des choix et nous continuons sur cette voie pendant des mois, pendant des années et pendant des décennies, comme c'est le cas de plusieurs de ceux qui m'entendent ici aujourd'hui. Jusqu'à ce que ce soit enraciné solidement en nous. C'est ça. Alors, dans le temps qui reste maintenant pour le sermon, je voudrais vous encourager à penser à votre vie. Pensez à une chose que vous aimeriez changer. Vous en avez sûrement, comme moi j'en ai. Est-ce qu'il y a une chose que vous voulez faire différemment, complètement différemment, pour être en ligne avec Dieu, pour ainsi dire? Voyons comment un tel changement peut se faire. Il y a quelques étapes pour ça à franchir. En fait, je vais vous donner trois étapes dans le sermon d'aujourd'hui. Première étape, changez votre routine. Changez votre routine concernant la chose que vous voulez modifier dans votre vie. Changez votre routine. Dans le livre « Le pouvoir des habitudes », il y a une histoire à propos d'un monsieur du nom de Tony Dungy. Lui, ça a été l'entraîneur de l'équipe de football américaine, les Buccaneers de Tampa Bay. Et il a fait fureur, il a réussi avec ses hommes, mais de façon spéciale. Parce qu'à ce moment-là, à cette époque, les équipes de football, pour entraîner leurs joueurs avec tout un scénario compliqué, les entraîneurs montraient à leurs joueurs le plus de scénarios possibles pour arriver à vaincre. Lui a simplifié les choses totalement différemment. Et il a eu un succès extraordinaire. Il a gardé les choses simples. Je vous cite la page 61 de ce livre. « Les champions ne font pas des choses extraordinaires. Les champions ne font pas des choses extraordinaires. Ils font des choses ordinaires, mais ils les font à un moment donné sans avoir à trop y penser. Ils les font assez rapidement pour que l'adversaire n'ait pas le temps de réagir. Ils suivent les habitudes qu'ils ont développées. » Voyez-vous? Donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il leur a montré un scénario simple de développer certaines habitudes tellement bien développées que ça vienne automatiquement comme réaction. Un peu comme Daniel a fait. Une menace énorme, il savait quoi faire. Et il l'a fait. Alors, appliquons ça à nous-mêmes. En tant que chrétiens, nous ne faisons pas des choses particulièrement extraordinaires chaque jour, hein? On a nos petites routines, notre petite vie, chacun dans notre coin, dans ce que nous avons à faire. On n'est pas sur la scène mondiale. Quand tout est en jeu, on n'est pas au milieu d'une équipe de football qui a un match à remporter. Non, on est dans nos petites vies quotidiennes, mais on a des choses à faire. Ce sont seulement nos vies ordinaires où nous prenons des décisions ordinaires dans les petites choses qui montrent à Dieu si nous allons être fidèles dans les grandes choses. Voyez-vous? Parfois, les gens nous disent dans l'Église, « Ah, moi, je suis pas important, je suis rien. » Vous avez raison, moi aussi, je suis rien. Mais il faut se rendre compte que dans la petite vie qu'on a à vivre, c'est de ça que Dieu se sert pour nous préparer à faire des choses beaucoup plus importantes dans le monde de demain. C'est marqué dans Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les plus grandes. » C'est ça que Dieu veut voir. Qu'est-ce qu'on fait dans nos petites choses? Et chaque jour, en sachant ça, on s'entraîne, on fait de l'exercice spirituel en mettant en pratique les lois de Dieu, comme on ferait dans une équipe sportive. Je reviens au livre sur les habitudes. Le secret pour changer de vieilles habitudes, dit l'auteur, c'est d'utiliser ce qui est déjà dans la tête des joueurs. C'est ce qu'il a fait. Il a déjà utilisé ce qu'il y avait dans la tête des joueurs. Les habitudes sont une boucle en trois étapes. Et vous allez voir, je vais revenir à ces trois étapes-là. C'est toujours les mêmes. C'est pas compliqué. D'abord, il y a ce qu'il appelle le travail, lui, ou l'activité en question qu'on a choisi de faire, ou ce qu'on a choisi de faire. Première étape, le travail. Deuxième étape, la répétition, ce qu'on appelle la routine. La troisième étape, on aime ça, la récompense. Alors, l'activité, la routine, la récompense. Parce que ces trois étapes-là, ça revient tout le temps. Mais Dungy voulait seulement attaquer la question de routine, et c'est juste là-dessus qu'il a travaillé. Intéressant, il n'essayait pas d'amener ses joueurs à effacer tout ce qu'ils savaient et faisaient. Il essayait seulement de changer une étape, la routine du milieu. Établir des bonnes routines, les répéter et être capable de les faire automatiquement sans avoir à y penser beaucoup. Tout ce que nous le faisons à travers ces trois étapes. Un début, c'est-à-dire l'activité choisie ou l'action à faire. Deuxièmement, la routine à développer. Et enfin, la récompense à viser. Chaque habitude contient ces trois phases-là, que ce soit une bonne habitude ou une mauvaise habitude. Quelqu'un qui a une mauvaise habitude suit le même pattern, suit le même modèle également. Ça, il faut le savoir pour être capable de l'appliquer à faire le bien. C'est pas nouveau, nous le faisons chaque année à la Pâque. Qu'est-ce qui arrive à la Pâque? On examine nos actions, hein? Nos points de départ de toutes choses. Puis après ça, on examine nos routines, nos habitudes et la récompense. Si on voit que si on plaît à Dieu, si on change ce qu'on a à changer, la récompense, c'est les bénédictions de Dieu maintenant et après ça, la vie éternelle. Alors, on procède à travers ces mêmes éléments-là. Et ce n'est qu'en analysant ces choses-là qu'on peut comprendre ce qu'on fait et qu'on peut commencer à faire un plan pour changer vraiment des choses. Et ça nécessite à ce moment-là de mettre en place une routine différente, comme l'entraîneur de cette équipe-là a inculqué à ses joueurs avec tant de succès. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans votre vie, quelque chose à faire qui ne fonctionne pas, que vous aimeriez varier? Quelque chose qui va pas bien, que vous aimeriez changer? Sûrement. Certains aspects de votre vie ne donnent peut-être pas les résultats escomptés. Vous n'en êtes pas satisfait, si ce n'est pas contraire même totalement aux lois de Dieu. Allons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, et on va lire les versets 21 et 22. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, donc à changer, par rapport à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors c'est ça qu'on doit mettre de côté, et ce qu'on revoit de façon particulière à la Pâque, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Dieu nous montre quoi faire, il nous donne les moyens, il nous donne de comprendre le but qu'on doit poursuivre, et de pouvoir compter sur lui. Après ça, à 24, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Après, il dit, c'est pourquoi, verset 25, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Paul donne un exemple ici. Il donne plus qu'un exemple dans le contexte, mais prenons cet exemple-là. Paul dit, si mentir pour vous, c'est un problème, si vous avez tendance à mentir, dans quoi que ce soit, comprenez pourquoi vous le faites. Et comprenez ce qui est le signal, ou qu'est-ce qui est l'activité, ou qu'est-ce qui vous pousse à le faire, qu'est-ce qui vous amène à le faire. Vous savez, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, là, le mensonge, ça n'a pas d'importance. Même, je devrais dire le contraire, ça a une grande importance parce que c'est utilisé partout. Et c'est multiplié au niveau politique, dans les affaires et ainsi de suite, parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Alors, dans notre monde, le message de notre culture, c'est que c'est acceptable de mentir. Si vous ne voulez pas faire de peine à quelqu'un, par exemple, ou si vous ne voulez pas créer de problème, vous pouvez faire un petit mensonge, puis bon, ça évite le problème. Si ça vous donne d'avoir une bonne image, ça ne va pas contre vous, vous pouvez mentir un petit peu. Ou si vous êtes dans une situation de pression et que vous ne voulez pas créer des problèmes, vous pouvez mentir. Ça, c'est ce que la société moderne enseigne. Mais ce n'est pas la voie de Dieu. Quelle est la récompense? Il y a une récompense, parce qu'on cherche toujours des récompenses. Même en mentant, on cherche des récompenses. Et quelle est la récompense? Pour le moment, vous vous sortez de la situation embêtante. C'est vrai, hein? Vous vous sortez de la situation embêtante. Mais vous devez alors vous rappeler le mensonge que vous avez raconté pour que le prochain mensonge que vous allez rencontrer ne contredise pas le dernier. Alors là, vous êtes embarqué sur un sentier glissant et très inconfortable. Mais vous avez eu une récompense qui n'a pas duré longtemps, à court terme. C'est pour ça que la loi de Dieu, elle est éternelle, puis elle est si bonne qu'elle produit de bons résultats. À long terme, ça signifie une confiance érodée. Parce qu'à un moment donné, les gens se rendent compte que vous mentez et ils vous retirent leur confiance. Ça veut dire des relations brisées si vous utilisez le mensonge. Ça veut dire des conflits. Paul dit, pour changer ça, on doit y introduire une nouvelle routine. De dire la vérité ou de ne rien dire, s'il n'y a rien à dire. Okay? De dire la vérité, c'est une nouvelle routine. Même si on serait tenté de mentir, on doit dire non, je vais mettre en pratique la loi de mon Dieu, même si ça me coûte quelque chose. Ça peut être douloureux sur le moment, c'est vrai. Ça peut nous amener des embêtements, c'est vrai. Mais après, les avantages à long terme sont extraordinaires et entre-temps, on a la tranquillité d'esprit. C'est ça. Si on dit la vérité, on a la tranquillité d'esprit. On a dit ce qu'il en était et on peut toujours étayer ce qu'on a dit. J'aime bien la petite phrase que M. McNair a utilisée après, il dit, si vous dites la vérité devient votre défense. La vérité devient votre bouclier. Vous êtes toujours protégé par la vérité. Ça renforce nos relations avec les autres et ça nous amène une paix intérieure. On est content de soi, on n'est pas mal à l'aise. Et ça renforce la confiance dans nos relations. Les gens ont confiance en vous parce que vous respectez votre parole donnée, parce que vous ne comptez pas de mensonges. Et il y a des bonnes récompenses à ça. Chaque habitude, elle est basée sur l'occasion ou l'action à choisir, la routine répétée et ensuite la récompense. Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. OK? Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si la colère est un problème en ce qui vous concerne, si vous êtes porté à exploser facilement, examinez ce qui se passe. Il faut toujours faire ça. En ce qui concerne les choses qu'on veut changer. Examinez pourquoi on fait. Comment on réagit. Quelles situations vous font exploser? Extérieurement ou juste intérieurement? C'est explosé pareil, là. Quelle situation vous fait exploser? Quel est le déclencheur? Et quelle est la récompense que vous cherchez? Il y a toujours une récompense. Au moins à court terme, pour chaque comportement. C'est clair, parce que sinon, on ne le ferait pas. Si à chaque fois qu'on mentait, on avait un coup de marteau sur les mains, on mentirait moins souvent. Ou si à chaque fois qu'on veut se fâcher, qu'on aurait un coup de masse sur une main, on serait doux, doux comme des agneaux, toujours, toujours. Après avoir les mains enflées une couple de fois, là, on serait beaucoup plus doux, voyez-vous. Alors, c'est parce qu'il y a une récompense au bout de pouvoir avoir explosé. Et de nos jours, on né dans une société qui est contraire à Dieu, où on met en valeur ceux qui crient le plus fort, hein, ceux qui font des manifestations dans les rues et tout ça. C'est eux qui sont mis en vedette, alors que c'est pas ça, les voix de Dieu. Alors, il faut examiner cette chose-là et prendre une route alternative. Par exemple, de dire, OK, je suis porté à me fâcher dans telle ou telle situation. Quand ça va se produire, je vais être frustré, je vais être bouleversé, mais je vais réfléchir, je ne vais pas réagir immédiatement. Je vais me donner du temps et je vais faire un plan d'action. Alors, voyez-vous, au lieu de réagir tout de suite et de péter les plombs, comme on dit, et d'avoir la récompense à court terme de dire, je lui ai dit ma façon de penser. Ça, c'est votre récompense à court terme. Mais c'est pas une récompense à long terme. Ça a juste envenimé les choses et vous avez peut-être créé d'autres problèmes plus grands. Au lieu de faire ça, au lieu de chercher la récompense immédiate, de dire, je lui ai dit ma façon de penser, ils vont savoir de quel bois je me chauffe. Si vous prenez l'approche suivante et dire plutôt, je vais avoir une conversation adulte avec la personne. On va clarifier la situation et on n'ira pas plus loin. Et même si c'est difficile, on préserve à ce moment-là le respect mutuel dans la relation. Alors voyez-vous, en examinant ce qui nous fait démarrer l'action du début et la récompense recherchée, là on voit qu'on peut introduire une routine nouvelle, une nouvelle façon de procéder, un nouveau scénario. Parler avec respect, ne pas réagir trop vite et parler calmement avec la personne ensuite si on doit établir les choses. Verset 28 du même chapitre 4, verset 28, « Que celui qui dérobait ne dérobe plus. » Dieu a une loi là-dessus, ne pas dérober. « Que celui qui a volé ne vole plus, mais adopte plutôt un nouveau mode d'action. » La sollicitude de devenir généreux au lieu de prendre, d'apprendre à donner. Le contraire. Ça, c'est la voie de Dieu. Quelle manière est-ce qu'on peut voler? On peut voler dans les dîmes. Je dois payer la dîme 10% de mon salaire sur le net de mon salaire, mais si je la donne pas ou si je la donne pas au complet, je vole automatiquement ou dans d'autres choses semblables. Ça peut être de bâcler notre travail, de pas donner à notre employeur la pleine mesure de travail qu'on s'est engagé à lui donner quand il nous a employés. On vole du temps, on vole de la rentabilité à notre patron. Il y a toutes sortes de façons de voler. On peut voler la réputation de quelqu'un en ouvrant notre grande trappe et en disant des choses qu'on n'a pas à dire. Il y a beaucoup de choses qu'on sait de d'autres personnes, mais qu'on n'a pas à répéter. Parce que ça vole la réputation de d'autres personnes et ça vole des relations bonnes entre les autres personnes ensuite. Voyez-vous comment le vol peut prendre différentes formes? Paul nous dit « Développer une routine différente. Travailler à devenir des donneurs et non pas des preneurs. Des donneurs de vérité, des donneurs d'affection, des donneurs d'encouragement et non pas des donneurs de fausses nouvelles ou de réputation brisée et ainsi de suite. » Paul dit « Adopter une nouvelle routine. Ça fonctionne tellement mieux. » Aussi que de dire simplement, « Ah, j'ai une mauvaise habitude, je vais arrêter ça, faut que j'arrête ça. » Mais si j'arrête là, j'ai tout arrêté, j'ai rien changé. J'ai eu la récompense temporaire de dire, « Ah, faudrait que je change. » Mais le « faudrait que je change », ça change rien. Dieu veut qu'on change, Dieu veut voir des fruits. Parce que si je dis simplement, « Faudrait que j'arrête ça, puis que je me satisfais de ça, ça va pas plus loin. » Il faut absolument changer et adopter une nouvelle routine. On peut utiliser nos mots pour encourager les autres, pour aider entre les gens, faire les bons choix. Il y a toujours une raison pour laquelle nous faisons ces choses et la récompense que nous attendons. Vous savez, il n'y a pas personne qui se lève le matin avec dans l'idée « je vais être méchant aujourd'hui, je vais être colérique, je vais être menteur, je vais être… » Non. Mais on se laisse influencer par les circonstances ou par ceux qui nous amènent à faire ces choses-là. Si on ne prend pas conscience qu'on doit être sur nos gardes en partant pour que notre journée soit selon Dieu, là on devient vulnérable et puis c'est décourageant parce qu'on tombe dans les mêmes scénarios. On a besoin, c'est pour ça que je vous donne le sermon aujourd'hui, d'analyser comment on fonctionne, puis être capable de se voir faire, puis d'utiliser les outils que Dieu nous donne. Non, on ne commence pas la journée en pensant qu'on va être méchant et qu'on va faire du mal. Il faut introduire une nouvelle routine entre les deux. Et si on fait ça, on est en train de vaincre. Ça, il faut que vous le réalisiez. Si on fait ça, si on dit là, au lieu de me choquer, au lieu de me fâcher, je vais ne pas parler, je vais me donner du temps, je vais me calmer, et s'il faut que je revienne parler à la personne, je reviendrai dans des bonnes conditions, en ayant du respect pour la personne et tout ça. En changeant ça, déjà, je suis sur la voie de repentir, et je suis sur la voie de développer le caractère de Dieu. Allez à Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4. Souvent, vous savez, dans différentes circonstances, on ne fait que réagir, parce qu'on n'a pas pensé avant à notre façon de procéder en tant qu'être humain. On fait seulement réagir à ce qui arrive. Et là, on crée d'autres problèmes où on fait des choses qu'on regrette après. On est, comme pour ainsi dire, sur le pilote automatique. Et c'est ça que je veux qu'on voit aujourd'hui par ce message-là, qu'il y a moyen de s'enlever de sur le pilote automatique pour maîtriser nos propres réactions avec l'aide de Dieu. Parfois, on garde certaines routines parce qu'il y a une récompense à court terme, comme j'ai mentionné. Mais la récompense à court terme, elle n'est pas bonne. Je vous donne un exemple, je n'irai pas dans la Bible. Vous pourrez le lire, d'ailleurs vous le connaissez très bien vous-même. L'exemple d'Ésaü. Récompense à court terme au lieu de récompense à long terme. Il est arrivé de la chasse, il avait faim, pauvre petit, il avait faim. Il n'était pas en train de mourir, là, il avait faim. Et son frère avait fait un potage. Alors, Jacob, qui était ratoureux un peu, il dit, « Ben, tu veux un peu de mon potage? Donne-moi ton droit d'aînesse. » Il n'y avait pas de valeur commune entre les deux. Hein? L'autre a méprisé son droit d'aînesse, comme on voit dans la Bible. Il dit, oh, « J'ai faim. Oui, donne-moi le potage, puis prends mon droit d'aînesse. » Ça a été grave. Après, il y a des conséquences de ça. Mais ça, c'est la récompense à court terme. C'est toujours attrayant, la récompense à court terme. Comme de courir après quelqu'un de l'autre sexe, d'avoir du sexe défendu, c'est toujours attrayant. Hein? D'exagérer dans la boisson, c'est toujours attrayant. Mais il y a une petite récompense à court terme, mais il y a une grosse douleur qui arrive avec aussi, au lieu de poursuivre la récompense à long terme. Le cas d'Ésaü donne un bon exemple dans ce sens-là. Proverbe 4, versets 25 et 26. « Que tes yeux... regarde en face que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies, et là je précise, que toutes tes habitudes, que toutes tes routines soient bien réglées, donc conscientes et constantes. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. » Dieu a construit nos cerveaux, nos esprits, selon le modèle d'action. Choix d'action, routine, récompense. Et lui veut nous donner la vie éternelle. Pas des petites récompenses à court terme. Bien qu'il nous donne aussi des récompenses à court terme. Parce que quand vous allez voir dans Marc 10, verset 30, les personnes qui viennent à l'église parfois et qui sont rejetées par leur famille ou qui perdent leurs amis, disent, moi j'ai tout laissé ça de côté, un peu comme l'apôtre Pierre a dit, on a tout laissé de côté, Seigneur, pour te servir. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui va nous arriver comme récompense? Alors, la récompense, même de ceux qui sont appelés maintenant et qui perdent soit un travail, soit des amis, soit des membres de leur famille. Dieu dit dans Marc 10, verset 30, ils vont recevoir au centuple dans ce siècle-ci des pères, des mères, des frères, des sœurs. Qu'est-ce qu'on reçoit quand on vient à l'église de Dieu, son petit troupeau? C'est une famille, des frères, des sœurs, des mères, pour nous encourager, c'est ça. Et après, il dit, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Formidable. Il faut introduire une nouvelle routine, absolument. Quelle est la chose que vous voudriez changer? Mettez-vous au travail sur un point particulier, puis ensuite vous enclencherez un deuxième point. Maintenant, la deuxième étape à faire, après avoir identifié ce premier point-là, c'est de répéter, répéter, répéter. Après avoir choisi une nouvelle routine à établir, il faut la répéter, la répéter, la répéter, y mettre les efforts qu'il faut. Et plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile. Dans le livre en question, il est dit ceci en parlant des joueurs. Ils sont entraînés par le coach à pratiquer encore et encore, jusqu'à ce que les comportements soient automatiques. C'est ça. Et on doit avoir la même chose sur le plan spirituel. Il dit, si ces joueurs hésitent ou doutent, de leur instinct, le système s'effondre. Voyez-vous, que devant les attaques de Satan, il faut en arriver au point. C'est pas évident au point de départ, mais plus on le fait, plus on va être capable de le faire. Il faut en arriver au point de départ à ne pas hésiter quand il y a un piège de Satan pour savoir tout de suite quoi faire. De changer de place, de changer de poste, de changer d'attitude, de se mettre dans une autre disposition pour lutter contre Satan. Parce que lui, il veut nous détruire, il veut nous emmener ailleurs. Alors, mais si on développe, comme les joueurs de cette équipe-là, de réagir automatiquement, que ça devienne une seconde nature, à ce moment-là, nos batailles spirituelles vont être plus faciles à gagner. Et on va quitter tout de suite les situations qui pourraient nous amener à pécher. Et souvent, c'est là qu'il y a une grosse partie de la bataille qui doit se livrer, dans les situations qui pourraient nous amener à pécher dans tel ou tel domaine. Si on suit ce cycle-là, au fur et à mesure, ça va devenir une seconde nature. Ça va devenir automatiquement. On va être capable de pardonner, par exemple. Alors que les premières fois qu'on a pardonné à quelqu'un qui nous a fait quelque chose de grave, de douloureux, ça a été dur. Les premières fois, on disait, ben, comment je vais faire pour lui pardonner? Je suis pas capable. C'est vrai qu'on n'est pas capable. Mais Dieu peut nous donner son aide. C'est là que les choses peuvent commencer à changer. Et ça aussi, il faut en être conscient et il faut lui demander. Et on se dit à ce moment-là, quand c'est quelque chose de grave qui nous a été fait, pourquoi je devais lui pardonner? Il s'est même pas repenti. Il voulait me faire du mal. Vous savez, il y a tout ce raisonnement-là qu'on fait dans ce temps-là, mais il faut changer. Nous, on a à changer, on a à préparer une nouvelle culture, une nouvelle dimension du monde, parce que ce sera un monde complètement différent qui va venir et qu'on aura à établir sur la terre. Il y a un auteur américain, Ralph Waldo Emerson, qui a écrit quelque chose de vraiment intéressant concernant les habitudes, dont celle de pardonner. Pardonner, on s'habitue à pardonner. On devient capable de le faire avec l'aide de Dieu de plus en plus, et on devient libéré du fardeau de ne pas pardonner, parce que c'est un fardeau de ne pas pardonner. Regardez ce que Emerson a écrit. Semer une pensée, récolter une action. Tout commence dans la pensée. Semer une pensée, récolter une action. Semer une action, donc faites l'action en question, vous allez récolter une habitude. Semer une habitude, vous allez récolter un personnage. Semer un personnage, vous récolterez votre destin. Vous allez devenir cette chose-là. Voyez-vous, on récolte ce qu'on sème. Et si on sème des valeurs comme celles dont je vous parle aujourd'hui, on peut arriver au bout. Nous avons tous des domaines de notre vie où nous pouvons utiliser des chemins qui ont été empruntés beaucoup par nos prédécesseurs dans la foi, en suivant leurs exemples. Et Dieu veut qu'on suive ce chemin-là qui a été fréquenté, de sorte qu'on développe cette deuxième nature-là en nous. Qu'on soit capable, lorsqu'il y a une bataille, de réagir rapidement aux attaques de l'ennemi. Même chose que les joueurs de l'équipe de l'entraîneur que je vous parlais tantôt. Ils ont été tellement entraînés à réagir rapidement que sans y penser, quand il y avait une situation de jeu telle, il réagissait tout de suite, il passait à l'action. Donc, il réagissait rapidement face à l'ennemi. 2 Corinthiens 2, verset 10. « Si vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » C'est vrai. Parce que Satan attaque constamment. Et vous savez une chose? Satan sait exactement sur quoi vous tentez, vous. Et c'est pas la même chose que moi, probablement. On est fragile sur différents aspects. Un, ça va être une chose. L'autre, ça va être autre chose. Mais il est toujours en attaque. Constamment. Il essaie de tromper. Mais de notre côté, on doit avoir un plan de match qui est simple et qui est toujours le même. Et on doit apprendre à réagir rapidement, comme les joueurs de l'équipe dont je vous ai parlé. C'est pas compliqué. Si on réagit correctement, on peut toujours gagner sur Satan avec la force de Dieu. Si on réagit rapidement, si on laisse entrer une idée, par exemple, qui nous intéresse, mais qu'on sait qu'elle n'est pas correcte, on la laisse entrer et on la regarde, c'est agréable, on suit un petit peu, mais pendant ce temps-là qu'on est en train de suivre un petit peu, on est en train d'embarquer dans la voiture de l'adversaire. On n'est déjà plus avec Dieu et on est moins sous sa protection. On est en train de faiblir beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que le contraire peut être vrai si on réagit tout de suite, dès que l'idée vient et qu'on sait que ce n'est pas conforme à Dieu, qu'on se met comme modus operandi, comme mode d'opération, de réagir tout de suite comme les joueurs de l'équipe, ils ne posaient pas de questions. Le ballon est là, il y a telle position, bang, c'est là qu'on va. Et c'est là qu'ils ont réussi à gagner. Si on réagit de manière juste, guidé par l'Esprit de Dieu, Satan, lui, veut essayer de nous déséquilibrer, de nous confondre, de nous prendre au dépourvu, mais on pourra résister. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais je vous donne aujourd'hui, dans ce message superbe de M. McNair, des moyens d'y résister. Comment Dieu nous entraîne à combattre? Par le plan de match qu'il nous donne. C'est ça. Il dit, t'aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la voie de Dieu. Elle est simple, elle est claire. Il y a deux éléments, pour ainsi dire. Donc, je reviens à mes trois points pour réussir à développer le caractère de Dieu. Un, acquérir de nouvelles routines, comme je l'ai mentionné tantôt. Deux, répéter de nouveau ses comportements. Et troisièmement, ce que je vous explique maintenant, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que tout seul, on ne peut pas. Et ça, il faut absolument le saisir. Parfois, ça prend du temps aux gens à vraiment saisir ça. Ou même s'ils le saisissent intellectuellement, dans leur vie de tous les jours, ils ont de la misère à mettre ça en pratique. Puis à dire, lorsqu'il arrive quelque chose, que je risque de pécher ou que je me sens affaibli, au lieu d'aller vers Dieu, ils continuent dans cette direction-là. Alors que s'ils prennent conscience que c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'ils peuvent résister, ils vont aller tout de suite vers Dieu. Ils vont bloquer cette pensée-là et ils vont aller tout de suite vers Dieu pour avoir ce dont ils ont besoin. La puissance de Dieu qui est à notre disposition, si elle n'est pas vraiment ancrée en nous, à ce moment-là, le stress et la situation et les invitations vont nous amener à pécher encore, à retomber encore dans nos fautes et à être encore découragés. Puis être encore éloigné de Dieu, parce que le péché nous sépare de Dieu. C'est ça. C'est tout le même phénomène, si vous voulez. C'est intéressant, je vous donne un exemple ici, c'est important. Le pouvoir des habitudes, page 84. Les chercheurs ont commencé à constater que le remplacement des habitudes fonctionnait assez bien pour de nombreuses personnes, jusqu'à ce que le stress de la vie soit devenu trop élevé. La perte d'un être cher, une déception, une autre perte, un changement d'emploi, ainsi, un ça. Lorsqu'il y a ce stress-là, là, parfois, ça change. Moment auquel les alcooliques, par exemple, rechutent souvent. Lorsqu'il arrive de quoi de décevant ou quelque chose de dur, à ce moment-là, les alcooliques ont tendance à retomber. Les universitaires se sont demandé pourquoi, si le remplacement des habitudes était si efficace, ils semblaient échouer à des moments aussi critiques. Et alors qu'ils examinaient l'histoire des alcooliques, pour répondre à cette question, ils ont appris que les habitudes de remplacement ne deviennent de nouveaux comportements durables uniquement si elles sont accompagnées de quelque chose d'autre. Ça prend quelque chose d'autre. Un groupe de chercheurs du groupe de recherche sur l'alcool en Californie, par exemple, a remarqué une tendance dans les entretiens. À maintes reprises, les alcooliques ont répété la même chose. Il était important d'identifier les occasions et de choisir de nouvelles routines. Mais sans autre ingrédient, les nouvelles habitudes ne s'étaient jamais complètement implantées. Et les alcooliques retombaient. Les alcooliques ont dit que le secret, c'est Dieu. Et si vous connaissez des alcooliques qui ont réussi, ils vont vous parler de leur aide suprême. Ce ne sont pas des gens qui connaissent Dieu comme vous le connaissez. Mais ce sont des gens qui ont réussi à éliminer cette faiblesse de leur vie, mais en comptant sur Dieu. Dieu dit, cherchez, vous me trouvez. Hein? Dieu répond pas seulement aux gens qui sont dans l'Église. Dieu répond sincèrement à ceux qui cherchent sincèrement, à lui obéir. Et dans ce cas-là, on a vu des réponses très claires. Les chercheurs ont détesté cette explication, je comprends. Dieu et la spiritualité ne sont pas des hypothèses vérifiables pour eux. Dans les circonstances, dans les conversations avec les toxicomanes, cependant, la spiritualité revenait sans cesse. Alors, ils se sont rendus compte que cet élément-là jouait. Les alcooliques anonymes parlent de puissance suprême. Pas nécessairement du même Dieu qu'on connaît, ou c'est-à-dire qu'ils ne le connaissent pas comme nous le connaissons. Mais le même Dieu est capable de leur répondre aussi. Et il leur répond, je le sais très bien. Mais la chose intéressante est que ces chercheurs voient que cette croyance en un autre pouvoir est essentielle. Mais nous, on l'a ce pouvoir-là et on le connaît. On connaît le vrai Dieu. Il vous a appelé à sa vraie Église. Il vous a montré son plan. Il vous offre son aide. Il vous offre son pardon, sa consolation, la force dont vous avez besoin. C'est formidable. On connaît le vrai Dieu, on peut avoir son esprit, et on peut avoir son esprit renouvelé en nous chaque jour. Mais je reviens à ça. Il faut qu'on en soit conscient. Il faut qu'on le demande chaque jour. Et quand on se retrouve devant une situation embêtante, de crier à Dieu, de lui demander sa force, de répéter à faire le bien. Et à ce moment-là, il va nous donner sa force de plus en plus. Paul dit dans Romains 12, verset 1, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et ce qui est bon. » Formidable. Alors, même il dit ailleurs, plus loin, Paul, dans Éphésiens 4, verset 3, pas besoin de vous y reporter, Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Donc, utilisez-le, mais ne vous éloignez pas de Dieu en pratiquant des choses contraires à Dieu, ce qui attriste l'Esprit. Si je suis en train de pécher, pensez-vous que l'Esprit de Dieu reste en moi dans la même proportion? Non, je suis en train de l'attrister, de l'éloigner de moi. L'Esprit de Dieu pousse à vouloir changer, et on doit changer. Si on veut le faire, si on demande à Dieu, et si on applique à changer des routines, Dieu va nous aider. Éphésiens 5, verset 17, je reviens à l'alcool ici. « C'est pourquoi ne soyons pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Voyez-vous comment les deux s'opposent? Quelqu'un qui boit trop, à ce moment-là, ça repousse le Saint-Esprit. « Ne vous enivrez pas de vin », ça ne veut pas dire de ne pas prendre de vin dans une mesure vraiment raisonnable. Mais si quelqu'un exagère, c'est que l'Esprit de Dieu en lui diminue et recule. Il est intéressant qu'il utilise cet exemple de vin et d'alcool dans ce contexte de modèle d'habitude formant des façons de penser et de faire les choses en expliquant comment utiliser l'Esprit de Dieu. Il oppose cela à l'alcool. Pourquoi les gens abusent-ils d'alcool ou de toute autre substance? Un, il y a un élément des malheurs qui les incitent à boire. Ça peut être des circonstances comme je vous ai mentionné tantôt. Ça peut être le stress, ça peut être des grandes pertes, ça peut être des assauts qui ont été faits sur la personne et tout ça, que la personne est découragée, qu'elle est brisée un peu. Ça peut être tout ce genre de choses-là, ou ça peut être l'environnement. Ça peut être des amis qui incitent les gens à boire, ou certaines situations dans lesquelles, si on reste, on va être exposé à boire ou à boire trop. Alors là, il y a des décisions à prendre, il y a une planification à faire pour être capable d'être délivré de ça. Ça, c'est au niveau du démarreur, de l'élément déclencheur. Deuxièmement, l'action. L'action, bien, c'est de prendre de l'alcool en trop grande quantité. Et puis après ça, il y a la récompense. Récompense à court terme, c'est quoi? C'est qu'on engourdit le problème pour quelques heures avant d'avoir le mal de bloc et les conséquences qui s'en suivent, qui sont pas toujours jojo, qui sont pas toujours drôles. Ou certains vont aimer beaucoup avoir l'euphorie d'aller trop loin. Mais c'est la même chose. Les résultats sont les mêmes. C'est une fausse récompense à court terme. Ne vous y trompez pas. Il y a une récompense. Sinon, personne ne serait tenté par une dépendance. Les dépendances sont une forme de récompense. Paul dit exactement ce que nous lisons dans le livre des Habitudes. Il dit, s'il y a un vide et que vous essayez de le remplir avec de l'alcool ou une substance quelconque, vous êtes sur la mauvaise voie, vous risquez votre salut. C'est ça. Il dit, remplissez cet espace par Dieu, par son Saint-Esprit. Tournez-vous vers lui. Soyez attentifs. Lorsque nous sommes stressés, nous devons tendre la main à Dieu. Abandonner l'action qui est mal. Demander à Dieu son aide, le supplier de nous délivrer. Et la récompense qui va arriver, ça va être des petites victoires qui vont s'accumuler, qui vont devenir plus naturelles d'une fois à l'autre, et ça va être la paix d'esprit, et ça va être une force augmentée de Dieu en nous. Et à long terme, de pouvoir transformer ce monde totalement, puis d'aider les êtres humains à tout point de vue. Il faut agir selon le modèle que Dieu nous montre. Par le Saint-Esprit, on peut avoir des changements durables dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible d'avoir des changements durables, sinon exceptionnellement. Même les gens sans Dieu peuvent faire des changements par la force de la volonté. Vous connaissez des gens qui ne sont pas dans l'Église, qui ont fait des changements majeurs par la force de la volonté. Mais il y a moyen d'aller plus loin. On a plus que ça. Mais on a toujours un choix à faire. Même eux ont fait des choix. On a toujours un choix à faire. Laissons Dieu prendre les rênes, si vous voulez. On a le pouvoir de vraiment changer parce que le Christ peut vivre en nous et vit en nous. Demandons-lui. C'est intéressant l'exemple que M. McNair donne avec les expériences que Dieu nous donne de vivre, il disparaît, on est pareil comme un oignon. Et Dieu enlève les pelures, une à une. Alors, il a peut-être enlevé un certain nombre de pelures de vos vies jusqu'à maintenant, mais là, il est en train d'aller plus loin. Vous passez des épreuves un peu plus grandes, il y a des difficultés plus énormes, il y a des décisions à prendre, il y a des choix définitifs à faire parce qu'on avance dans le temps. Là, il est en train de travailler, si vous voulez, sur le cœur de l'oignon. Parce que Dieu travaille au cœur. Dieu voit au cœur et Dieu change le cœur. La partie n'est pas terminée encore, mais elle est avancée. Et c'est pour ça qu'il nous faut prendre au sérieux les messages comme celui-là qui nous sont donnés avec les outils qui nous sont fournis. Dieu a dit, « Je mettrai mes lois dans leur cœur. » C'est marqué dans Hébreux 8, verset 10. C'est ce que Dieu fait dans le cœur de ceux qu'il appelle maintenant. Il nous montre la splendeur de ses lois. Comment ça va être beau dans le monde à venir lorsque ces lois seront vécues partout. Et mais nous, on a à en vivre maintenant et on envoie le bon fruit tout de suite dans nos vies. Et on a des outils, tous les outils dont on a besoin pour aller de l'avant. C'est le moment d'y aller. Monsieur McNair dit, n'hésitez pas, allez de l'avant, ne tardez pas, faites ce qui doit être fait avec le Christ en nous ou avec nous dans le cas de ceux qui sont appelés mais qui ne sont pas baptisés encore. Avec le Christ, avec nous ou en nous, on peut y arriver. Et ça s'applique, ce que je vous dis, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés. C'est pour ça que je souligne cet élément-là. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, pour que la personne comprenne, il faut que Dieu mette un peu de son esprit avec la personne pour qu'elle comprenne. Et cette personne-là est considérée aussi importante que les autres qui sont baptisés. Il est en train de l'amener vers le baptême. C'est important qu'on fasse cette nuance-là. Maintenant, en terminant, je vais vous donner un exemple superbe. J'ai trouvé merveilleux. Vous allez peut-être vous rappeler de ça. C'est un champion olympique de nage, Michael Phelps. Vous avez peut-être vu ses exploits. C'est un médaillé d'or, je ne sais pas combien de fois que cet homme-là a été médaillé en termes de natation. C'est fantastique. Mais ce qui lui est arrivé à un moment donné dans une course spéciale où il a battu un record mondial dans des circonstances atroces, complètement contraires, ça nous donne l'exemple de ce que nous avons besoin de comprendre dans le message d'aujourd'hui. Parce que, vous savez que les nageurs qui font ces concours-là, à plusieurs reprises, font d'un bout à l'autre de la piscine, et ils ont des petites lunettes, des lunettes de natation. Et dans son cas, au moment où je vous dis qu'il a battu un record mondial, la première fois qu'il a plongé pour commencer sa course, il y a de l'eau qui est entrée dans ses lunettes de plongée. Vous imaginez ce que ça fait, là? Ça commence à monter. Il a fait une longueur, après qu'il a commencé à revenir, l'eau était complètement dans ses lunettes, de sorte qu'il ne voyait plus rien. Situation stressante, désespérante pour un athlète de haut niveau comme ça, qui veut atteindre de grands objectifs. Vous savez ce qu'il a fait? Il a continué à nager. Vous savez ce qu'il a fait? Il a compté le nombre de longueurs. Ça prend 17 ou 18 longueurs, je pense, pour arriver dans ces concours-là. Alors, deux, trois, en allant au mur, en revenant. Mais il ne voyait rien. Et vous savez, au moment où ça s'est terminé, quand il est sorti de l'eau, il a entendu les cris des gens, il avait battu le record mondial en ne voyant pas. Et vous savez pourquoi il a pu faire ça? C'est un peu la raison du message d'aujourd'hui, ce qu'on doit apprendre à développer comme habitude. C'est que son entraîneur avait prévu une situation semblable. Et il l'avait entraîné à nager les yeux bandés, les yeux fermés. Il l'a obligé à s'entraîner à plusieurs reprises, les yeux fermés, à faire les longueurs de piscine au complet. Comme si c'était la réalité. Mais la réalité, elle est venue au moment où c'était le vrai concours. Donc, il était entraîné déjà la routine, l'habitude à être capable de compter ses actions, à aller au maximum quand même, et même s'il voyait rien, à mener d'avant, d'avant, d'avant. Comme on doit faire avec Satan. On doit en arriver à être capable de résister, même si parfois dans des circonstances complètement contraires, complètement décourageantes, complètement stressantes, on sera capable d'arriver à faire nos longueurs de piscine et d'arriver au bout et de sortir vainqueur. Pas par notre force, mais parce que notre entraîneur, Dieu c'est notre entraîneur, il est en train de nous entraîner actuellement avec toutes sortes de situations qu'on vit pour justement développer en nous les habitudes de compter sur lui, de ne pas jouer dans le terrain de l'adversaire en acceptant aucun compromis de ce que Satan nous offre qui pourrait être momentanément intéressant, mais en tenant avec le but en tête et de maintenir. L'entraînement de Michael Phelps a porté fruit. quand il en avait le plus besoin. Toute la répétition, toute la routine de ces modèles était là. Il avait pratiqué, il savait quoi faire. Et il savait qu'il pouvait le faire parce qu'il l'avait fait. Et parce qu'il l'avait fait tellement de fois, comme nous on doit le faire tellement de fois, il n'avait pas le stress de quelqu'un qui doit le faire pour la première fois. Mais oui, la différence, ça c'est toute la différence. Notre grand entraîneur prend soin de nous. Et il veut qu'on développe son caractère. Pourquoi? Pour qu'on devienne comme lui, prévisible, qu'on ne change pas. Dieu dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est en train de nous préparer à devenir comme ça. Et pour devenir comme ça, il faut y aller par étapes dans les choses qu'on a à changer dans notre vie. Et il nous entraîne à être comme lui en répondant toujours de la même manière sur la base de ses lois. Il faut les pratiquer régulièrement, volontairement, consciemment. Voilà le pouvoir des habitudes divines qu'il nous donne de développer par son esprit. Il faut en être conscient et il faut le faire constamment pour atteindre le but, l'immortalité, et faire le bonheur des autres et la joie de notre Père.